faire un massacre pareil. Qu'on en veuille à une grande personne parce qu'il y a un problème encore, mais s'acharner sur des enfants égorgés, c'est l'horreur, l'horreur. L'horreur.
Le 4 septembre 1994, dans la Sarthe, un couple et ses deux petites filles sont massacrés à coups de hachoir dans leur pavillon. Un crime barbare qui hante encore la justice et les esprits.
Vous écoutez Fait d'hier, le podcast du magazine Femme Actuelle Senior. Chaque semaine, nous nous replongeons avec vous au cœur des grandes histoires criminelles. Dans cet épisode, l'affaire d'Annie Leprince.
À Conneret, une petite bourgade tranquille de la Sarthe, le bureau de poste ouvre à 9h le matin. Mais en ce lundi 5 septembre 1994, l'heure tourne et Brigitte Leprince n'arrive pas. La jeune mère de famille doit reprendre le boulot après 3 semaines de vacances en Ardèche avec son mari et leurs 3 filles, Audrey, 10 ans, Sandra, 6 ans et Solène, 26 mois. Ce retard ne ressemble pas à Brigitte. C'est inquiétant. Comme tout le monde se connaît dans le coin, le receveur des postes appelle le mari de Brigitte, Christian Leprince, qui tient un garage à la sortie de Torigné-sur-Dué, un village voisin. Mais à l'autre bout du fil, ce n'est pas Christian qui répond, c'est l'un de ses employés, Franck Leprêtre. Lui aussi est inquiet, car son patron, pourtant toujours ponctuel, n'est pas encore arrivé. Il décide alors de se rendre chez les Leprince pour voir si tout va bien. En arrivant sur place, Franck Leprêtre constate que les voitures du couple sont garées devant le pavillon. La porte d'entrée est entrebâillée et les volets sont ouverts. Brigitte et Christian doivent donc être chez eux. Il frappe à la porte, plusieurs fois. Personne ne se montre, excepté le caniche blanc des Leprince qui lui fait la fête. Il entend le téléphone sonner à l'intérieur. Personne ne répond. Il fait le tour de la maison et ne remarque rien de spécial, à part une grande flaque brune devant l'entrée. Il se décide à pousser la porte. Et là, c'est l'horreur. Le spectacle qu'il découvre dépasse l'entendement. La petite Sandra, en culotte et en t-shirt, gît sur le sol du couloir dans une mare de sang. À côté d'elle, son père repose à plat ventre, bras en avant, les jambes allongées en travers de celles de sa fille, slip et pantalon baissés jusqu'aux genoux. Sa mâchoire a été comme arrachée par un animal. La scène est atroce. Franck Leprêtre en a assez vu. Il ne s'aventure pas plus loin. Il se précipite au garage prévenir ses collègues et revient avec l'un d'entre eux chez les Leprince pour attendre les secours. Sur la route, il croise Nelly Hatton, la nounou de Solène, la petite dernière de la famille. Sans nouvelles de Brigitte elle non plus, elle a alerté la mairie une demi-heure plus tôt. Inquiète, elle est venue sur place. Comme le carrossier, elle a entrebâillé la porte d'entrée et découvert le carnage. En revenant vers sa voiture, elle a remarqué une large traînée de sang dans l'herbe, comme si un corps avait été tiré depuis la boîte aux lettres. Très vite, les pompiers et les gendarmes de Conneret arrivent sur les lieux avec le médecin du bourg. À leur tour, ils découvrent dans l'entrée les corps lacérés de Sandra et de son père. Puis dans la cuisine, ils trouvent celui de Brigitte, pieds nus, face contre terre. Son crâne est déchiqueté et son corps affreusement mutilé. Le sang a giclé partout, sur le plafond, sur les murs. Des morceaux de doigts, de chair et de cervelle macule le couloir, la cuisine et le carrelage du salon où il y a eu bagarre. Par terre, il y a un couteau cranté, la lame cassée en deux. Et sur le canapé, un tisonnier ensanglanté avec des cheveux collés dessus. Des cheveux, il y en a d'autres, partout. Sous le torse de Christian, comme dans le poing serré de Sandra et de sa sœur Audrey. Les gendarmes la retrouvent sur le dos, devant la chambre de ses parents. On l'a tirée par les pieds depuis la salle de bain, où elle a été battue avec une violence inouïe. Audrey a visiblement essayé de se défendre avant d'être achevée à terre, son majeur gauche tranché, la gorge sectionnée. Dans la salle de bain, les enquêteurs constatent que quelqu'un s'est rincé les mains. Les robinets, une éponge et une serviette, où s'accrochent des brins d'herbe, sont couverts de sang. Au rez-de-chaussée, ils repèrent 2 empreintes de chaussures différentes. L'une d'elles correspond à une Doc Martens pointure 41. En poursuivant leur macabre état des lieux, les gendarmes entendent des gémissements derrière une porte, la seule de la maison dont la poignée n'est pas maculée de sang. Ils l'ouvrent et découvrent une petite fille en pyjama dans une chambre impeccablement rangée. C'est Solène.
Solène est une petite fille, presque un bébé. Elle a 2 ans. Elle vit à Torigné-sur-Douai dans la Sarthe. La dernière fois qu'on a vu son père, il jardinait paisiblement, c'était dimanche. Hier lundi, on a trouvé le corps de Christian Le Prince, celui de sa femme Brigitte et ceux de 2 de leurs 3 enfants, les sœurs de Solène. On les a tués, on les a massacrés dans leur maison à coups de hachette. Solène a pu échapper à la mort. Elle s'est blottie derrière une porte en attendant la fin du cauchemar.
Le médecin la prend dans ses bras et la confie à sa nourrice qui attend dehors. Robert et René Le Prince, les parents de Christian, sont là eux aussi. Robert est hagard. René hurle. D'après divers témoins, elle aurait crié « depuis le temps que ça devait arriver ». Alain et Dany, les 2 frères de Christian, les ont rejoints. Martine, la femme de Dany, est là aussi. « Ils sont tous morts », lâche-t-elle à son mari, qui s'effondre en pleurs sur son volant. Des badauds se rassemblent. Venu du Mans, le major Monnier fait évacuer tout le monde. Il fait sécuriser la scène de crime qui a déjà subi beaucoup trop d'allées et venues. Dans leur constat, les gendarmes notent que le pavillon n'a pas été fouillé. Ils retrouvent le portefeuille de Christian dans sa veste et dans un placard, une boîte en fer contenant 45 000 francs. Ils tombent aussi sur une reconnaissance de dette posée bien en évidence sur un secrétaire. Datée de 1986, elle fait état d'une somme de 10 000 francs que Dany doit rembourser à Christian. Ils s'interrogent sur la présence de ce document et sur le comportement pour le moins étrange des proches des victimes. L'attitude de la femme de Dany notamment. Après avoir crié « Où est la petite? Où est la petite ?» et l'avoir cherchée frénétiquement dehors, Martine ne porte plus aucune attention à Solène lorsqu'elle est retrouvée saine et sauve. Renée, la mère de Christian, réagit elle aussi bizarrement. Très agitée, elle semble tout aussi indifférente au sort de la petite rescapée. Enfin, les pompiers présents sur la scène du crime s'étonnent du calme de Dany. Pour les gendarmes, c'est évident. Il faut enquêter sur cette famille dont les membres habitent tous à quelques mètres les uns des autres. Christian et Brigitte ont fait construire leur maison sur un bout de terrain cédé par les parents de Christian, à 400 mètres de la ferme familiale. À moins de 15 mètres, du même côté de la route, il y a un second pavillon, quasi identique. C'est celui de Dany Le Prince, le frère aîné de Christian. Il y vit avec sa femme, Martine, et leurs 3 filles, Célia, Pauline et Marion. Les 2 frères ont beau n'avoir que 3 ans d'écart, ils sont comme le jour et la nuit. Enjoué, solaire et séducteur, Christian, 34 ans, a monté une entreprise de carrosserie. Ses affaires marchent bien, on vient de Paris pour lui confier sa voiture. Christian fait rajouter une petite aile à son domicile et aménager des combles. Pour son anniversaire, il a même offert à sa femme une jolie Triumph décapotable qu'il a lui-même restaurée. Pour Dany, en revanche, la vie est moins souriante. L'homme est un taiseux. À 37 ans, il est toujours très proche de René, sa maman. Trop peut-être. À Torigné-sur-Douai, il se murmure que l'aîné de Le Prince ne serait pas le fils de son père, Robert, qui a épousé René alors qu'elle était enceinte. Dany a toujours adoré travailler la terre. Il a repris l'exploitation agricole de ses parents pour réconforter sa mère. La retraite venue, elle ne supportait pas de devoir brader toute une vie de labeur. Martine et Dany se sont lourdement endettés pour reprendre le flambeau familial. Ils se tuent à la tâche, mais malgré tous leurs efforts, ils peinent à joindre les 2 bouts. Martine est la seule salariée déclarée. Elle gère les 100 hectares en fermage dont la moitié est cultivée. Elle s'occupe de son élevage de porc et du cheptel de vache de ses beaux-parents. Pour améliorer l'ordinaire, Dany complète sa journée en travaillant de nuit à la Socopa, une boucherie industrielle. Pour le couple, le mot « vacances » n'existe pas. L'exploitation est déficitaire. Dany emprunte à droite, à gauche, et Martine en a marre. Si la situation ne s'arrange pas rapidement, elle veut vendre les terres. Les temps sont durs pour Dany et c'est pareil pour son petit frère, Alain, 23 ans. Lui aussi, il sue sang et eau à la Socopa pour un salaire de misère. Bref, on n'est pas à la fête dans le monde Claude et Le Prince en ce début de septembre 1994. Les jalousies et les rancœurs s'accumulent. Les 2 frères aînés n'ont pas grand-chose en commun. Le 3e peine à s'établir et les belles-sœurs s'observent par-dessus la haie. Le tout sous l'œil de Renée, la matriarche, surnommée la tour de contrôle par ses fils. Une femme aussi dure à la tâche qu'intrusive dans le quotidien de ses belles-filles. L'entente n'est donc pas au beau fixe chez les Le Prince. Mais cela suffit-il pour autant à en faire des suspects ? L'autopsie révèle que les quatre victimes sont mortes le dimanche 4 septembre, entre 21h30 et 22h. L'emploi du temps de chacun des membres de la famille est vérifié. Leurs alibis tiennent la route. Personne n'a rien vu, rien entendu, et les chiens n'ont pas aboyé. Alors, qui a pu se déchaîner avec une telle barbarie sur le garagiste et les siens ? Ce n'est pas un crime de rôdeur, car rien n'a été volé. On ne leur connaît aucun ennemi. Y aurait-il un tueur fou dans la région ? La peur gagne le village de Thorigné-sur-Dué, et les habitants se barricadent. Une dizaine de personnes sont entendues, mais ces pistes ne mènent nulle part. L'arme utilisée, avec fureur d'après les légistes, est un objet lourd à lame tranchante et à poignée courte. Il s'agit vraisemblablement d'une feuille de boucher. C'est une sorte de hachoir employée par les écarisseurs pour découper les carcasses. Les enquêteurs ratissent les environs à sa recherche, en vain. La presse aussi s'intéresse de près aux détails de cette terrible affaire. Les journalistes se pressent en masse sur les lieux du crime et en font leur gros titre. 3 jours après le drame, Martine Le Prince, affolée, appelle les gendarmes. Sa feuille de boucher a disparu. Les enquêteurs la retrouveront chez René, sa belle-mère. Le manche mouillé comme s'il venait d'être lavé. Cela commence à faire beaucoup.
L'enquête sur le quadruple meurtre de Thorigné-sur-Dué avance à grands pas. Il est 21h hier soir lorsque les gendarmes interpellent 5 membres de la famille de Christian Le Prince, le carrossier assassiné avec sa femme et 2 de ses filles. Les 5 personnes sont emmenées séparément dans diverses brigades de gendarmerie du département de la Sarthe pour y être entendues durant toute la nuit.
Dans la soirée, les gendarmes mettent tout le clan Le Prince en garde à vue. Martine craque la première. Tout lui revient par flash, prétend-elle. Oui, elle a entendu son mari se disputer le dimanche soir avec Christian près des boîtes aux lettres. Elle l'a vu le frapper avec un objet brillant. Elle a hurlé « Arrête, arrête !» Elle a essayé de prévenir Brigitte, mais en arrivant chez sa belle-sœur, elle l'a découverte baignant dans son sang. Elle a aussi trouvé ses 2 nièces massacrées et n'a pas osé chercher Solène. Puis c'est au tour de René de parler. Elle reconnaît que ses fils ne s'entendaient pas et qu'elle a bien lavé la feuille de boucher. Célia, 15 ans, la fille aînée de Dany et Martine, fournit aussi quelques détails. Elle commence par raconter qu'elle a rêvé que son père frappait son oncle dans le jardin. Puis elle admet que ce n'était pas un rêve. À sa 46e heure de garde à vue, Dany Le Prince, épuisé, passe aux aveux. C'est vrai, il s'est disputé avec son frère pour des questions d'argent. Il a frappé Christian plusieurs fois avec une feuille de boucher. Pour le reste, il ne peut rien dire. Nous sommes le vendredi 9 septembre 1994. Il est 19h. La machine judiciaire est lancée. Malgré ses rétractations lors de la première reconstitution, qui a lieu 2 semaines plus tard, malgré l'absence totale de traces ADN dans la maison ou de preuves matérielles de son implication dans cette tuerie, Dany Le Prince ne peut plus inverser le cours de la justice. Aussitôt surnommé le boucher de la Sarthe, en référence à son emploi à la Socopa, il apparaît comme le coupable idéal. Il n'y a personne pour faire remarquer qu'il travaille au conditionnement des steaks hachés et qu'il ne sait pas manier une feuille de boucher. Personne pour noter que les empreintes de taille chaussure 41 relevées sur la scène du crime ne peuvent pas être les siennes puisqu'il chausse du 45. Personne pour croire les amis qui certifient avoir bu une bière avec lui à l'heure supposée du massacre. Et personne pour souligner les incohérences d'un dossier bouclé en seulement 5 jours. 6 mois après le drame, le 24 mars 1995, vient s'ajouter le récit des frayeurs d'une fillette. La petite Solène, l'unique rescapée du carnage, aurait reconnu son oncle Dany sur le journal et aurait frappé la photo en criant « Papa, maman, pas gentil tonton !» Des propos accusateurs rapportés par sa nourrice aux gendarmes. Toujours d'après la nounou, l'enfant lui aurait aussi confié que sa tata, Martine, était gentille car la nuit du drame, elle lui a donné un bain et elle a dormi avec elle. D'ailleurs, précise la nourrice, quand le docteur lui a confié la petite le lendemain matin, elle sentait le frais. Martine, bien entendu, se défend de toute implication. Mais son mari se saisit de l'occasion pour renverser les rôles. Dany se dit victime d'un complot. Il traite son épouse de menteuse et l'accuse à son tour d'avoir tué tout le monde. Qui dit vrai ? Qui ment ? Nul ne le sait. Mais Dany demeure le principal suspect. Il est mis en examen. Son procès commence au Mans le 8 décembre 1997, devant la foule des grands jours.
Depuis trois jours, on sentait bien la tension monter autour de ce palais de justice du Mans. L'accusé Dany Le Prince, dans son box, enfin face à son épouse Martine, l'accusatrice. À la barre, Martine, en instance de divorce, apparaît fragile, presque effondrée, quand elle décrit ce qu'elle a vu ce fameux soir de septembre 1994. On s'était disputé avec mon mari, à propos des terres de ses parents. Il est sorti, j'ai entendu des cris, je l'ai vu frapper son frère, près de la boîte aux lettres, avec un objet brillant. Dans la maison, il y avait du sang partout. J'ai cru à un cauchemar. Mon mari était devenu un monstre, j'en avais peur. Dans la salle, l'atmosphère est pesante.
L'homme, qui a maintenant 40 ans, ne parvient pas à susciter l'émotion. Il se montre falot, ordinaire, insensible aux faits dont il est accusé. Décrit comme rigide et coincé, il prend des notes, interroge les témoins, mais bâille durant le réquisitoire de l'avocat général, comme si tout cela ne le concernait pas. Le verdict tombe le 16 décembre. Dany est condamné à perpétuité avec 22 ans de sûreté. Ses parents et ses amis de Thorigné-sur-Dhuys crient à l'erreur judiciaire et réclament une révision du procès. Car à cette époque, il n'est pas possible de faire appel d'une condamnation. Plusieurs comités de soutien se forment, dont l'association Action Justice, créée par Roland Agré, un ex-condamné accusé à tort, gracié, puis acquitté. Il se passionne pour le cas de Dany. Personnage haut en couleur, Roland Agré part en croisade. Il dénonce les zones d'ombre du dossier et mobilise les médias. Il convainc aussi Dany Le Prince de trouver une façon de se manifester depuis sa cellule à Poissy, pour qu'on ne l'oublie pas. Le prisonnier décide alors de rester tout nu jusqu'à la révision de son procès. Les mois et les années passent, ponctués de drames et d'espoirs déçus. Au printemps 2006, la commission de révision ordonne un complément d'enquête. Mais en juin 2007, René, désespéré que son fils ne soit toujours pas innocenté, se pend dans le garage de la ferme. Trois ans plus tard, la commission de révision suspend la peine de Dany Le Prince. Il retrouve enfin la liberté, mais pas pour longtemps. La Cour de cassation le renvoie en prison en mars 2011. Dany bénéficie tout de même d'une liberté conditionnelle fin 2012. Il s'installe avec Béatrice, qu'il a épousée pendant qu'il était en prison. Il continue à clamer son innocence et une nouvelle enquête s'ouvre en 2015.
De nouveaux éléments, apparus en 2006 lors de la demande de révision du procès, ont malgré tout convaincu le parquet de soutenir ce dépôt de plainte. Parmi les questions restées en suspens lors du procès de Dany Le Prince en 1997, plusieurs traces d'ADN relevées sur les scènes des crimes, dont aucun n'appartiennent à l'accusé. Une empreinte de chaussures sans propriétaire et un timing des meurtres qui paraît extrêmement court pour un seul homme.
L'année suivante, son père décède à Thorigné. Malgré l'interdiction toujours en cours de se rendre dans son village natal, Dany demande à pouvoir assister aux obsèques. À cette époque, il est assigné à résidence à Marmande, dans le Lot-et-Garonne. Mais en fait, il s'est installé dans le Perche avec une nouvelle compagne. Du coup, il est renvoyé en prison pour 6 mois. Depuis le 19 avril 2021, Dany Le Prince a terminé sa peine et il est libre de ses mouvements. Le 27 mai dernier, 26 ans après le drame, la Cour de révision a accepté les nouvelles investigations réclamées par Dany en vue d'obtenir un second procès. Il n'a pas renoncé à l'espoir de faire reconnaître son innocence.
Ce texte, écrit par Isabelle Spack, adapté par Bénédicte Aubry, a été enregistré par Anne-Vincent Sini, mixage de Lucas Vibo.
Vous avez écouté Fait d'hier. Nous attendons vos réactions et vos commentaires. N'hésitez pas aussi à nous noter sur les plateformes et à partager avec votre entourage.